Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement.
Ah non.
Bois ton poison, charlatan. Boire mon, mais pourquoi?
Voici le temps du poison de la corde.
Des arbres comme ça, Truffaut et Jardiland n'en veulent pas. S'il arrive qu'un arbre cache la forêt, il est moins courant qu'il dissimule un tueur. En l'occurrence, ils sont trois. Faites entrer les accusés, je vous présente l'arbre araignée, l'arbre zombie et le paix du diable, les trois arbres les plus dangereux de la planète. Pour faire simple, qui s'y frotte, s'y pique et meurt. Mais notre trio criminel a plus d'un tour dans sa branche. En plus de pointes acérées et toxiques, leur sève peut être acide, les tiges de leurs feuilles urticantes, sans parler de leurs fruits bien plus empoisonnés que la fameuse pomme qui fit pioncer la belle au bois dormant. Pourquoi tant de violence, me direz-vous? Comme un certain Jack l'Éventreur, le tueur de Whitechapel, le but et le modus operandi de nos trois plantes restent nimbés de mystère. À quoi sert cet attirail disproportionné? Que nous apprennent leurs poisons, capables de pousser certains malheureux au suicide? Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le cas, assez près même pour se laisser piquer. Et celle qui a piqué ma curiosité avec son article, c'est Rachel Mulot, la chef du service enquête de Sciences et Avenir. Bonjour Rachel.
Bonjour Romain.
Tu vas bien?
Je vais bien. Je souriais à ton évocation des vendeurs de plantes. Parce que l'abominable arbre bombardier, dont je parlerai un peu plus tard, c'est un arbre d'Amérique du Sud qui a été introduit en Afrique justement comme plante ornementale. Et certains se sont retrouvés avec un arbre orné de pics comme une massue moyenâgeuse, sauf qu'elle était vénéneuse, sans s'en douter, avant qu'elle n'atteigne 40 mètres de haut. Aujourd'hui, je suppose que le commerce, l'exportation, l'importation de telles plantes obéit à des règles strictes qui éviteraient qu'on introduise de telles plantes vénéneuses, mais j'ai pas pensé à vérifier. Et je suis sûre qu'on trouverait un public, des gens prêts à en acheter.
Ah bah oui, effectivement, comme on prend des serpents ou ce genre de choses. Le point de départ de ton enquête, c'est pas Jardiland ou Truffaut, c'est le travail de deux chercheuses australiennes qui n'ont pas hésité à se faire piquer par le Jimpy.
C'est ça.
C'est ça, hein, c'est l'arbre araignée. Donc elles se sont fait elles-mêmes piquer pour percer le secret de ce cousin assez vénère de l'ortie qu'ont-elles appris en douillant leur mère, si tu me passes l'expression.
Alors, il paraît que toucher un Jimpy, c'est comme être brûlé à l'acide et électrocuté en même temps. Et ça, c'est l'écologue Marina Hurley de l'université de Sydney qui le dit. Et sa consœur Irina Vetter, qui est elle de l'université de Brisbane, toujours en Australie, elle témoigne que la douleur pour elle a duré de 6 à 8 semaines, donc une douleur atroce. Mais d'après les archives médicales, les cas qui ont été rapportés, ça peut durer jusqu'à 6 mois, des jours, des semaines. Et alors nos deux héroïnes de la science, elles n'ont pas hésité à se frotter à cet arbre qui est connu en fait depuis des siècles pour essayer de percer le secret de leur toxine, pour essayer de comprendre comment se faisait qu'il produisait une douleur qui rendait les gens complètement fous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de Jimpy. En fait, il y a plein d'androcnidés. Et c'est le plus petit de la famille. Alors, il y a des géants qui peuvent atteindre des dizaines de mètres, mais c'est le plus petit de la famille. C'est un arbuste qui dépasse pas 3-4 mètres, qui ne paye pas de mine comme ça, qui s'est révélé le plus dangereux. En
c'est
fait,
le nain de la famille.
Le nain était le plus teigneux. On peut dire ça. Et ce que les archives montrent, c'est qu'il a poussé des gens à la folie, au suicide. Il a rendu des chevaux fous de douleur, des chiens en sont crevés. Donc c'est assez bien documenté, mais ce qu'il fallait, c'était un œil moderne, en fait, pour se pencher sur ces arbres et essayer de percer, en fait, le secret des toxines, des peptides, de leur venin. Et là, les deux chercheuses se sont rendues compte que, de toute façon, il était quasiment impossible de travailler, de collecter des spécimens pour les ramener en laboratoire sans payer de leur personne. Même armés de super gants, etc. Il suffit d'un effleurement. Et là, en fait, la plante, elle est couverte. Elle a une feuille veloutée en forme de cœur qui est tout à fait...
belle, quoi.
Voilà, attirante. Mais ce petit velours-là, ce sont des aiguilles qui sont comme autant de seringues hypodermiques. Quand on le touche, ça se déclenche. Elles rentrent sous la peau et elles peuvent y rester jusqu'à 6 mois. Et ce qui se passe, c'est que même si on arrive à calmer la douleur pendant les premières semaines, au bout de quelques temps, il suffit qu'on se frotte la peau, qu'on la passe sous l'eau froide, sous l'eau chaude, et ça réactive, en fait, ces aiguillons de la douleur. Et là, c'est reparti pour une boucle qui vous rend complètement zinzin.
Un arbre gardien. Le berger de la forêt.
J'imagine que c'est un défi scientifique, hein, tu l'as dit. Bon, c'est compliqué, entre guillemets, d'étudier ces arbres sans soi-même se faire piquer. Mais au-delà de ça, quel est l'intérêt d'aller étudier ces toxines, d'en comprendre un petit peu le fonctionnement?
En fait, la question, c'était pourquoi une plante produit-elle des venins, produit-elle des substances qui sont aussi toxiques? Comment elle les a développées et à quoi
ça sert?
Et à quoi ça leur sert et à quoi ça ressemble? En fait, les plantes, on sait que depuis longtemps qu'elles ont des défenses. Mais les plantes, elles n'ont pas besoin de tuer pour manger, contrairement aux animaux. Donc c'était un mystère de savoir pourquoi elles produisaient des venins aussi toxiques.
D'ailleurs, c'est des venins que tu compares dans ton article à celui du scorpion, hein, carrément.
C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte que c'est les peptides qui forment les toxines qui sont dans ces venins. Elles ont des nœuds. Et ces nœuds, ils sont très proches de ce qu'on trouve dans des venins de scorpions, dans des venins d'araignées ou dans des venins d'escargots marins qui tuent des baigneurs chaque année. C'est-à-dire des bestioles réellement mortelles et réellement toxiques. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que pour la première fois, on a montré que dans le monde végétal, s'était développée une voie de fabrication de venins qui était parallèle à celle du monde animal. Il faut comprendre aussi que les plantes, bon, elles n'ont pas besoin de tuer pour se nourrir, mais elles ne peuvent pas fuir. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles aient les deux pieds dans le même sabot, mais qu'elles ont des racines qui les clouent au sol. Donc ça fait des millénaires, c'est même des millions d'années, qu'elles développent des systèmes de défense qui sont extrêmement sophistiqués. Il faut qu'elles puissent panser leurs plaies, panser leurs feuilles, quand il y a une punaise qui vient les croquer. Il faut qu'elles puissent résister à un grand froid, à une grande sécheresse. Donc elles font des réserves, elles se replient, etc. Elles apprennent à boucher des canaux, à en ouvrir d'autres, à préserver l'essentiel de leur fonction vitale. Et elles se défendent aussi contre les pesticides ou contre les agents pathogènes, les maladies. Et donc, elles ont réussi en fait à développer des systèmes de défense extrêmement sophistiqués. Là, cette fois-ci, c'est un système de défense qui est poussé à l'extrême puisque quasiment personne ne peut les toucher sans qu'ils leur en cuisent.
Tu l'as dit, quasiment.
Alors, c'est ça justement. Pour le Jimpy Jimpy, il y a seules deux espèces pour le moment qui ont été identifiées et dont on sait qu'elles peuvent le brouter tranquillement. Donc, il y a un petit pademélon à pattes rouges. Il est de la famille des marsupiaux. Et il y a aussi un coléoptère. Eh bien, Romain, ils font l'objet en fait d'études extrêmement poussées parce qu'on voudrait comprendre par quel mécanisme ils se sont blindés, comment ils arrivent à résister, quelles sont les résistances et même les secrets pour résister à ces toxines qui affolent les canaux de la douleur. Et on imagine que c'est le fruit d'une longue coévolution, c'est-à-dire que ces animaux, leurs ancêtres, ont coévolué avec les Jimpy Jimpy et leurs ancêtres pendant des siècles, peut-être pendant des millénaires, et on voudrait savoir ce qui les rend immunes.
La thélasse ?
La feuille des rois.
Oui, c'est de la mauvaise herbe.
Elle peut ralentir le poison. Allez en chercher.
On l'a dit, tout ça pour l'instant se passe en Australie. On va voyager encore un tout petit peu, mais on le sait, l'Australie, c'est le pays de toutes les beautés, mais aussi de tous les dangers. Comment on se protège de cet arbre? Est-ce qu'on le brûle quand on en voit pousser? Est-ce qu'il y a des réserves? Effectivement, parce que c'est pas parce que ces arbres sont tueurs qu'il faut les tuer. Est-ce qu'il y a des réserves pour arbres tueurs?
Non, il n'y a pas de réserve pour arbres tueurs. Il n'y a pas de campagne de déracinage au secours. Les brûler, c'est s'exposer à des fumées toxiques. D'ailleurs, c'est la même chose pour d'autres arbres. Et ils sont très difficiles à manipuler. Donc, ce que fait le gouvernement australien, ce sont des campagnes d'affichage très complète pour dissuader les gens d'y toucher.
Ouais, un panneau, attention, arbre méchant.
Voilà. Okay. Et dans plusieurs langues.
Est-ce qu'on peut imaginer des applications? Alors, t'évoquais par exemple via l'étude des marsupiaux des applications peut-être pour un jour comprendre les mécanismes de la douleur et les interrompre chez les individus. Mais est-ce qu'on peut imaginer donc dans le cas des arbres des applications dans l'armée? On y pense de suite, ou en médecine, des résultats des recherches menées en ce moment?
Mais quelle bonne idée, Romain! Mettre au point des armes biologiques qui rendraient les adversaires fous de douleur. On n'imagine pas quelle avancée ce serait.
Mais ce serait des armes non létales du coup. Enfin.
Non létales, mais atroces. Là. Oui. C'est de quoi émouvoir tout le monde, y compris la communauté internationale. On imagine, c'est comme les gaz répandus des armes qui rendraient des gens fous de douleur pendant des semaines. Quelle excellente idée, ça frapperait les esprits. D'autant plus que les soldats, ils sont bardés de vêtements protecteurs, les civils ne le sont pas. Donc, je vous imagine en fait l'horreur.
Je vais garder cette idée de côté.
Cela dit, je ne suis pas sûre que l'armée n'y ait jamais pensé. J'ai pas trouvé de documents dans ce sens. Ce que je sais, c'est que l'armée s'est intéressée aux propriétés du Jimpy Jimpy, mais il s'agissait d'abord d'en protéger en fait ses soldats. Donc, il y a des médecins des armées qui s'en sont préoccupés. Et puis alors, j'imagine aussi que manipuler le Jimpy Jimpy de telle façon, ce serait extrêmement dur, sauf que Irina Vetter vient récemment de synthétiser les molécules pour les reproduire en 3D. Donc d'ici à ce qu'un général fou vous entende, on ne sait jamais, c'est possible. L'important là, en fait, le premier défi, c'est celui de mettre au point des antidouleurs d'un nouveau genre. Et c'est là que le travail de l'Université de Brisbane a été intéressant. Ils ont en fait regardé comment le poison agissait. Vous savez qu'on a tous des récepteurs de la douleur et ça passe notamment par ce qu'on appelle les canaux ioniques. Et en fait, on voit que quand la toxine est introduite dans l'organisme, elle affole tous les récepteurs et elle empêche les canaux ioniques de se refermer, de sorte que les signaux de douleur ne s'interrompent jamais. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais remarqué, en tout cas pas chez une toxine de plante. Et c'est ça qui va essayer de permettre la mise au point en fait, d'un nouveau type d'antidouleur.
Pour justement bloquer, inhiber ce genre de
inhiber
comportement.
Inhiber ce genre de réaction dont on soupçonnait à peine qu'elle existait.
Peut-être mon tort est-il d'avoir jugé que des fruits naîtraient d'un arbre pourri.
On quitte l'Australie, mais on ne va pas dans une destination beaucoup plus hospitalière, pour ce qui est des végétaux, bien sûr. Les Guadeloupéens et les amoureux de la région savent de quoi je parle, puisque on le reconnaît au trait de peinture qui ceinture son tronc, le mancenillier est tristement célèbre dans toutes les Antilles françaises. Tout, alors quand je dis tout, est absolument toxique chez lui. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien résumé, Rachel?
Oui, c'est très bien résumé. J'ai vécu aux Antilles et en fait, ces arbres, c'est vrai qu'ils sont irrésistibles. Ils bordent des plages et des mangroves, ils offrent de l'ombre. Ils ont aussi des petites feuilles en forme de cœur, de jolies petites pommes acidulées qui répandent un parfum qui est assez irrésistible, dans lequel on a tous envie de croquer. Bon, voilà, il faut se référer au nom latin. Hippomane, ça veut dire le cheval fou, c'est-à-dire ça rend des chevaux fous de douleur. Et Mancini, là, c'est pour la petite pomme, ça vient, lui, de l'espagnol. En fait, là, j'avais repris des chiffres. Il fait encore d'énormes dégâts, bien qu'il soit connu depuis très longtemps. Entre janvier 2007 et décembre 2017, il y a encore 97 personnes qui ont atterri aux urgences, intoxiquées, en dépit justement de ces cercles de peinture et de ces panneaux qui avertissent les gens. En fait, qu'est-ce qu'on risque? Des lésions complètement abrasives des lèvres, si jamais
on
a croqué le fruit. Une irritation qui peut être sévère, en fait, des voies aériennes et digestives, des vomissements, des diarrhées. Et alors, on peut gonfler un peu comme quand on a une sorte de réaction allergique. Et là, il nous faut une trachéotomie pour nous permettre de respirer à nouveau parce qu'on fait des œdèmes. C'est ce que raconte la pharmacologue Véronique Natou qui vient de consacrer une thèse à l'Université de Poitiers justement sur la toxicité du mancenillier. Bon, le point positif, c'est que la chair est tellement brûlante qu'en général, ça dissipe fait d'en croquer plus d'une.
Ouais.
Sinon, effectivement, on risque jusqu'à la mort. Mais de toute façon, il vaut mieux pas y toucher du tout. Les plantes exsudent un latex qui est lui-même extrêmement corrosif. Quand il pleut, en fait, ça peut balayer sur vous les substances toxiques qui étaient sur l'arbre. Donc, ne pas s'abriter sous le mancenillier en cas de pluie. C'est une des choses qu'on apprend, en fait, quand on arrive aux Antilles. Et il faut comprendre aussi que ce figuier vénéneux, qu'on appelle aussi pomme zombie, est connu depuis des millénaires. Les Amérindiens s'en servaient pour enduire leurs flèches. Bon, malheureusement, les gens continuent à être imprudents. Les touristes, surtout, sont les premières victimes. Ils lisent pas les pancartes. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'on sait maintenant ce qui rend la plante aussi agressive. En fait, ce sont ce qu'on appelle des diterpènes. C'est des hydrocarbures qui sont produits naturellement par les plantes. Et c'est ça qui produit autant de dégâts. Et alors, on essaye de les brûler, on essaye de les éradiquer. Mais alors, le bûcheronnage est très difficile. Avec le latex, les gens qui coupent se font brûler. Et les fumées provoquent des irritations, des yeux. Enfin, c'est terrible.
Ce que tu me dis, c'est les hydrocarbures produits par les plantes alentours ou c'est par le mansonnier ?
Non, c'est le mansonnier
qui lui produit des hydrocarbures.
Lui-même, en fait, dans son système de défense, quand je parlais des mécanismes de défense des plantes, il faut savoir que les plantes produisent des dizaines de substances différentes pour se défendre.
Dissuasives, tout
voilà,
ça.
Voilà, contre les différents types d'agressions. Et quand ils se font brouter, par exemple, ils peuvent envoyer cet hydrocarbure qui va écœurer la punaise, qui va écœurer l'animal brouteur et le dissuader d'en manger. Et c'est cette substance que l'arbre utilise quand il est agressé, donc par exemple quand on le coupe ou quand on le brûle. Et il suffit qu'il y ait une plaie qui sointe et que cette plaie soit balayée par les pluies
là,
pour que, de toute façon, après, ça vienne sur simplement les humains qui viennent s'abriter.
Ok, très clair. Et pourtant, donc, malgré sa dangerosité, cette plante joue toujours un rôle qui est quand même indispensable, j'ai l'impression, dans la protection du littoral et dans les mangroves même, il me semble.
Il est très très important parce qu'en fait, c'est un arbre qui reste petit, qui a des racines profondes. Et donc, en fait, il coupe le vent et il stabilise le sable. Et comme on sait que les mangroves, c'est une réserve de biodiversité extrêmement importante pour de multiples espèces, des petits poissons, des crevettes, etc. Là, il joue un rôle précieux. Et sur les plages, c'est pareil. Si on veut éviter l'érosion, avoir des mansonniers, ça vous protège. Ce sont de très bons coupe-vent.
Malgré tout, moi, tu m'as donné vachement envie de retourner en Guadeloupe. Je ne pourrais que conseiller Guadeloupe, Antilles. Bref, profitez de la région et de ses merveilles.
Et voyez ceci. Ça sent la forêt. Vous ne voulez point humer la forêt ?
On reprend l'avion pour rentrer dans les terres, cette fois en Amazonie et en Amérique tropicale, avec un arbre qu'on appelle le bombardier et chez qui tout indique, attention, arbre méchant. Le tronc de cet arbuste, j'ai dit arbuste mais qui peut culminer jusqu'à 40 mètres, est recouvert d'épines toxiques. Mais ce n'est pas la moindre de ses armes. Si j'ai bien lu son CV, le paix du diable, joli nom, serait l'un des arbres les plus dangereux du monde, et pas pour rien.
C'est un arbre à poison, mais il est aussi connu comme un arbre à poisson. Pourquoi ? Parce que les Indiens, justement, les tribus locales, allaient récupérer un peu du suc de cet arbre, le mettaient dans l'eau, et les poissons remontaient à la surface, le ventre retourné, ce qui facilitait la pêche.
Ah bah, considérablement.
Oui, donc tout l'équilibre, c'était de mettre un tout petit peu, mais pas trop, pour que les poissons ne soient pas durablement empoisonnés. Il a servi aussi à fabriquer des flèches empoisonnées. Et nul singe ne peut y grimper sans dommage parce qu'il est hérissé de piques.
Ouais, c'est un hérisson, vraiment. J'ai vu les photos.
J'imaginais, en fait, c'est comme les massues du Moyen-Âge, là, qu'on voit hérissées de piques, sauf qu'elles sont naturelles. Donc, vous imaginez un arbre de 40 mètres qui fait plus d'un mètre de circonférence, hérissé de piques qui font des dizaines de centimètres. Voilà. Et sur lesquels on ne peut pas se frotter, se blesser sans risquer une grave intoxication. Et en fait, on a découvert aussi, ça c'est assez récent, que ces graines, c'était un pur poison. Elle contient une huile purgative, ça fait penser un peu à l'huile d'oricin, mais aussi de l'albumine qui inhibe la synthèse des protéines. Et en fait, quand on l'ingère, ça provoque de graves effets cytotoxiques dans les organes, c'est-à-dire que ce sont les cellules de ces organes qui meurent. Il suffit d'ingérer 2 à 3 graines pour avoir des troubles digestifs. Et puis l'armée notamment a relevé qu'en cas d'intoxication plus sévère, on pouvait avoir une tachycardie, des troubles de la vision, confusion mentale et des convulsions qui pouvaient précéder un décès.
Charmant portrait que tu nous fais là de l'arbre bombardier, mais qui doit donc ce nom à quoi ?
En fait, c'est un grand solitaire, il est assez peu visité, et il faut bien qu'il se reproduise. Donc, pour ses amours, il a trouvé un moyen assez explosif pour disséminer ses graines. Donc, lorsqu'ils arrivent à maturité, ses fruits, qui ressemblent à des sortes de citrouilles, éclatent, mais violemment, et ils projettent des graines, leurs graines aplaties, jusqu'à 18,50 m, et à une vitesse de près de 50 km/h. Ça, ce sont des anthropologues en fait, qui ont reproduit cette expérience en laboratoire. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet, vous devriez pouvoir la retrouver. Il faut taper arbre bombardier, anthropologie comme mot-clé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils tapent en fait, sur les espèces de citrouilles. Donc, ce sont des coques assez dures, mais quand elles explosent, alors, il vaut mieux d'ailleurs ne pas se retrouver sous ces projectiles. Voilà, mais c'est ce qui lui fait mériter son surnom d'arbre bombardier.
Et la France dans tout ça, parce que c'est l'un des avertissements de ton dossier. Il faut se méfier des arbres de son jardin, ou même de ceux qu'on trouve au bout du chemin. Tu parles notamment de la cytise, un très bel arbre hein, d'ailleurs.
Oui, en France, le cytise faux ébénier est un arbre particulièrement dangereux. Toute la plante, mais surtout les fleurs et les graines, contiennent de la cytisine, donc c'est un alcaloïque très toxique qui se rapproche par son action de la strychnine. Quelques heures après l'ingestion des fleurs, on a des nausées, des vomissements, des diarrhées, une altération de l'état général. Les graines, ça provoque en outre des convulsions, des sueurs, une détresse cardio-respiratoire qui peut entraîner la mort. Et malheureusement, en fait, les gousses des cytises, ça ressemble à des haricots jaunes, de sorte que les enfants jouent souvent à la dinette avec dans les jardins. Et cet arbre, ce cytise faux ébénier, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Il y a des centaines de plantes en France qui sont extrêmement dangereuses. Je pensais à la datura qui peut provoquer des épisodes hallucinatoires mais extrêmement dangereux. Et donc, moi j'encourage en fait nos auditeurs et nos auditrices à s'informer sur les sites comme toxiplantes.fr qui sont tenus par des pharmaciens ou alors les Herbonautes qui est un herbier collectif numérique qui est érigé peu à peu par des citoyens pour s'informer.
Oui, c'est ça. C'est si jamais ils trouvent un très bel arbre au fond du jardin dans la maison qu'ils viennent d'acheter ou dans une maison de campagne qu'ils louent pour les vacances, faites gaffe, quoi. Quand même.
Toujours se renseigner. Surtout qu'il y a des faux amis, en fait.
Du cytise ou de l'arbre zombie, quelle arme a utilisé le colonel Moutarde pour son méfait dans le jardin d'hiver? Je sais pas vous, mais je me dis que le Cluedo pourrait s'inspirer de nos trois compères pour changer un peu du vieux chandelier et de la sempiternelle clé anglaise. À ce grand écart littéral, vous aurez déduit qu'il est temps de nous quitter. En attendant que l'idée fasse son chemin chez Hasbro, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On quittera les plantueuses pour un environnement tout aussi mortel, la planète rouge, j'ai nommé Mars. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas, piquez au vif ou pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.